Vous êtes sur Radio Saint-Afrique. Entrez donc dans la Cour des comptes. Cette année de comptes va tourner autour des femmes. Je ne sais pas encore comment je vais exactement m'y prendre. Je n'ai jamais considéré les femmes comme un sujet particulier, politiquement parlant, dirons-nous, pour le sauvetage de notre humanité. Pour moi, des solutions pour notre humanité en danger mêlent forcément hommes et femmes dans un même mouvement pour essayer de nous sortir de ce mauvais pas où nous nous sommes laissés entraîner. Cependant, je dois reconnaître que dans toutes les cultures, les traditions, hommes et femmes sont soumis à des lois différentes. La question c'est pourquoi ? La réponse est peut-être justement dans la vision que reflètent les mythes et les contes. Je vais commencer par la vision occidentale et ses variations dans le temps. Pour cela, je commencerai par un bouquin qu'on me cite toujours quand je dis que je compte et que j'ai l'intention de parler des femmes. Ce bouquin, c'est « Femmes qui courent avec les loups ». Je l'ai depuis longtemps et j'ai essayé de le lire. Je m'y suis encore remise pour cette émission et j'ai toujours autant de mal avec Clarissa Pinkola d'Este, analyste jungienne, l'auteur de ce bouquin. Elle a certainement des choses intéressantes à dire, mais j'ai du mal à les avaler telles qu'elle est présente. Jugez par vous-même. J'ouvre les guillemets. La vitalité faiblissante des femmes peut se restaurer en se livrant à des fouilles psycho-archéologiques. Retrouver les voies de la psyché instinctive naturelle. Discerner de quelle manière fonctionne la nature innée de la femme. Les traces que nous suivons toutes sont celles du soi instinctuel, du soi sauvage et profond. Vous êtes la créature instinctuelle quintessentielle. Je ferme les guillemets. Ça vous parle ? Moi, non. Puis, ça m'énerve. C'est quoi cet instinct ? Si nous considérons qu'il s'agit là de l'instinct conféré par la nature, comme à toute autre espèce, pour sa survie, il faudrait une analyse parallèle, concomitante, de l'instinct des mâles, puisque ces deux parties concourent au même but, la conservation de l'espèce. Le bouquin a pour objectif, au travers de l'analyse de quelques contes, d'illustrer le propos de Clarissa, c'est-à-dire apprendre aux femmes à retrouver la femme sauvage en elle, celle qui sera libérée de la domination masculine. Un premier conte, cité par Clarissa, conte russe avec Baba Yaga et Isba sur pattes de poule, Vassilissa. Il était une fois un marchand. En 12 ans de mariage, il n'eut qu'une fille, Vassilissa. Sa femme mourut alors que la petite avait 8 ans. Sentant approcher sa fin, la mère appelle Vassilissa, prend une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à sa fille « Écoute mes dernières paroles. Obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle. Garde-la. Ne la montre à personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. » La femme du marchand embrasse sa fille et meurt. Le veuf se désole, comme il convient, puis songe à se remarier. Il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec 2 filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, se dit-il, et mère de famille avisée. Il l'épouse donc. Mais il s'était trompé. Sa femme n'était pas une bonne mère pour Vassilissa. La marâtre et ses filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elles la tourmentent, l'accablent de besogne, pour que le vent et le soleil la fassent noircir, que le travail la fasse dépérir. Mais Vassilissa supporte tout sans se plaindre et devient chaque jour plus belle. Chaque jour plus blanche et rose, alors que la marâtre et ses filles, qui ne bougent pas, ne font rien de leurs 10 doigts, maigrissent de dépit et jaunissent d'envie. Elle ne savait pas que sa poupée aidait Vasilissa. Le soir, quand tout le monde s'endort, la jeune fille s'enferme dans son appentis, sert à manger à sa poupée et lui raconte ses malheurs. « Petite poupée, mange et écoute mes peines. Triste est la maison de mon père. La méchante marâtre veut ma perte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» La poupée mange, puis elle console Vasilissa, la conseille, et au matin, fait tout le travail à sa place. Le potager est sarclé, l'eau puisée, les choux arrosés, le feu allumé, pendant que Vasilissa se repose à la fraîcheur, cueille des fleurs. Le temps passe, Vasilissa grandit et devient une fille à marier. Tous les garçons de la ville demandent la main de Vasilissa et personne ne regarde les filles de la marâtre. Alors celle-ci se met à haïr Vasilissa encore plus fort. Elle répond au prétendant « Je ne marierai pas la fille cadette avant les aînés. » Un jour, le marchand doit partir en voyage pour longtemps. Durant les longues soirées, les filles travaillent. L'une à faire de la dentelle, l'autre à tricoter des bas, et Vasilissa à filer le lin. La marâtre leur donne leurs tâches pour la nuit et se couche, ne laissant qu'une chandelle allumée. L'une de ses filles fait mine de moucher la chandelle avec une pince et l'éteint, comme sa mère lui avait ordonné. Quel malheur! L'ouvrage n'est pas terminé et il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut aller demander du feu à Baba Yaga. Baba Yaga, c'est la sorcière qui vit dans la forêt tout à côté. Elle ne laisse personne approcher de sa maison et elle croque les gens comme des poulets. Qui va y aller? Pas moi, dit la dentelière. Avec mes épingles, j'y vois clair. Ni moi, dit la tricoteuse. Mes aiguilles brillent, j'y vois bien. Et toutes les deux s'adressent à Vasilissa. C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba Yaga. Et elle la pousse hors de la pièce. Vasilissa court à son appentis, serre le souper à sa poupée et lui dit en pleurant « Petite poupée, mange et écoute ma peine. On me dit d'aller chez Baba Yaga, elle va me dévorer. Ne crains rien. Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut arriver. » Vasilissa met sa poupée dans sa poche et s'en va dans la forêt obscure. Elle chemine depuis quelque temps en tremblant quand un cavalier la dépasse. Tout de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc, harnaché de blanc. Aussitôt, le ciel devient plus clair. Elle poursuit son chemin et voit un autre cavalier, vêtu de rouge, et monté sur un cheval rouge, harnaché de rouge. Et le soleil se lève. Ce n'est qu'au soir tombant que Vasilissa atteint la clairière où vit Baba Yaga. La clôture de sa maison est faite d'ossements. Des crânes avec des yeux ornent cette clôture. Comme montant du portail, des jambes humaines, pour loquer des bras avec des mains. Et en guise de cadenas, une bouche avec des dents pointues. Vasilissa tremble comme une feuille. Quand un cavalier arrive tout de noir vêtu et monté sur un cheval noir harnaché de noir. Aussitôt, la nuit tombe et les yeux des crânes s'allument, si bien qu'on y voit comme en plein jour. Vasilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur la cloue sur place. Tout à coup, il se fait grand bruit dans la forêt. Les branches craquent, les feuilles crissent et débouche dans la clairière Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle voyage dans un chaudron, le pousse du pilon et efface sa trace du balai. Le chaudron s'arrête devant le portail. Baba Yaga hume l'air et s'écrie « Ça sent la chair fraîche par ici. Qui est-ce » Toute tremblante, Vasilissa s'approche en saluant bien bas. « C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi te demander du feu. » « C'est bon, je les connais. Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. » Baba Yaga roule dans la cour et Vasilissa la suit. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affale sur un banc et ordonne à Vasilissa « Sers-moi à manger, tout ce qui est au four. » Et dépêche-toi, j'ai faim. Vasilissa se met à la servir. Pâté et rôti, tarte et tourte, jambon et soupe. Elle tire du cellier hydromel et eau-de-vie, bière et vin. De quoi boire et manger pour 10. Baba Yaga mange et boit le tout. Elle ne laisse pour Vasilissa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. « Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain. Et tâche que tout soit bien fait. Sinon, je te mange. » Elle se couche et se met à ronfler. Vasilissa met devant sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant « Petite poupée, mange et écoute ma peine. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. » « Ne crains rien, Vasilissa. Va dormir tranquille. Le matin est plus sage que le soir. » Vasilissa se lève avant l'aube, mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt, les yeux des crânes s'éteignent, passe le cavalier blanc. Et le jour se lève. Baba Yaga sort dans la cour et siffle. Aussitôt, le chaudron vient se ranger devant elle, avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passe et le soleil apparaît. Baba Yaga monte dans le chaudron et s'en va. Restée seule, Vasilissa fait le tour de la maison, en se demandant par quel bout commencer le travail. Quand elle voit que tout était déjà fait. La poupée triait les derniers grains de blé. Vasilissa l'embrasse. « Comment te remercier, ma poupée chérie? Tu m'as sauvé la vie !» La poupée grimpe dans sa poche en disant « Tu n'as plus que le dîner à préparer. Puis, repose-toi. » Au soir tombant, Vasilissa met la table. Bientôt, le cavalier noir passe et la nuit tombe. Les yeux des crânes s'étant allumés, on entend les branches craquer, les feuilles crisser. C'est Baba Yaga qui arrive. Vasilissa sort à sa rencontre. « Le travail est-il fait ?» demande Baba Yaga. « Vois par toi-même, grand-mère. » Baba Yaga inspecte tout, regarde partout, sans trouver rien à redire. Elle grogne. « Bon, ça peut aller. » « Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. De la terre s'y est mêlée. Tâche qu'il n'en reste pas trace. Sinon, je te mange. » Elle se met vite à ronfler. Vasilissa serre sa poupée. Elle lui dit comme la veille, « Va dormir tranquille. Tout sera fait, Vasilissa chérie. Le matin est plus sage que le soir. » Le lendemain, Baba Yaga part. Et Vasilissa, avec sa poupée, font l'ouvrage en un tournement. À son retour, Baba Yaga inspecte tout, regarde dans tous les recoins, ne trouve rien à redire. Elle appelle, « Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez presser l'huile de mes graines de pavot. » Trois paires de bras apparaissent, emportent les graines hors de la vue. Baba Yaga s'attable pour dîner. Vasilissa la serre en silence et la sorcière grommelle. « Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es là comme une muette. » « C'est que je n'osais pas, grand-mère.
Mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose. Demande, mais toute question n'est pas bonne à poser. D'en savoir trop long, on vieillit trop vite. Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il? C'est mon jour clair. Après ça, j'ai vu un cavalier tout rouge. Qui est-ce? C'est mon soleil ardent. Et puis, j'ai vu un cavalier tout noir. Qui est-ce? C'est ma sombre nuit. Tous trois sont mes serviteurs fidèles. Vasilissa pensait aux trois paires de bras, mais n'en souffle mot. Baba Yaga lui dit, eh bien, tu ne me poses plus de questions? J'en sais bien suffisamment, grand-mère. Tu l'as dit toi-même. À trop savoir, on vieillit vite. C'est bien. Tu interroges sur ce que tu as vu dehors, pas sur ce qui se passe dedans. J'entends laver mon linge en famille, et les trop curieux, je les mange. Et maintenant, c'est mon tour de te poser une question. Comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne? La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère. C'est donc ça? Eh bien, fille bénie, va-t'en, et tout de suite, je n'en veux pas de bénie chez moi. Baba Yaga pousse la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prend un crâne aux yeux ardents, le met au bout d'un bâton qu'elle fourre dans la main de Vasilissa. Voilà du feu pour les filles de ta marâtre. Prends-le. Après tout, c'est pour ça qu'elle t'avait envoyé chez moi. Vasilissa part en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairent son chemin et ne s'éteignent qu'à l'aube. Elle chemine toute la journée et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit, depuis le temps, elles ont sûrement trouvé du feu, et voulut jeter le crâne. Mais une voix en sortit. Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre. Vasilissa obéit. En arrivant, elle est bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison, plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec une certaine joie. Depuis son départ, lui disent-elles, pas moyen d'avoir du feu dans la maison. Celui qu'on allume ne prend pas, celui qu'on amène de chez les voisins s'éteint. Le tien se gardera mieux peut-être, dit la marâtre. Vasilissa apporte le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se fixent sur la marâtre et ses filles, les suivent partout. En vain tentent-elles de fuir ou de se cacher, les yeux les poursuivent, et avant l'aube, il n'en reste que cendre. Et c'est ainsi que se termine le conte pour Clarissa. Bien que la version habituelle continue. Vasilissa s'en va à la ville et recueillie par une vieille femme, elle tisse du lin, en fait toile. Ces toiles sont converties en chemises pour le tsar. Et c'est comme ça que Vasilissa rencontre le tsar qui tombe amoureux d'elle et l'épouse.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurez dans nos villes, nos sarcasmes, aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes, etc. L'État comprime et la loi triche. L'imposerie des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté lit, bête et chérie, ce qu'on la thune non que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt.
Et en prime, bien sûr, l'analyse de ce conte, sa signification selon Clarissa. Mais je vous la fais courte, sinon il y en a 40 pages. Vasilissa traite de la transmission de mère en fille de l'intuition féminine. Ce pouvoir formidable se compose d'une vision intérieure, d'une écoute intérieure, d'une connaissance intérieure, du fait de sentir de l'intérieur. L'initiation dans ce conte s'accomplit par la réalisation de 9 tâches, qui est le résumé de l'enseignement de la vieille mère sauvage. Laisser mourir la trop bonne mère, faire l'expérience de sa propre part d'ombre, établir des relations aussi bonnes que possible avec ses plus mauvais côtés, apprendre à développer sa sensibilité en direction de l'inconscient mystérieux, et à se reposer sur ses sens. Se familiariser avec les grands pouvoirs sauvages de la psyché féminine. Apprendre la vérité sur ce qu'implique la connaissance de tous les éléments de la nature sauvage. Prendre possession de l'immense pouvoir de voir les autres et d'agir sur eux. Utiliser sa vision perçante pour reconnaître l'ombre négative dans sa psyché et les aspects négatifs des êtres et des événements du monde extérieur et prendre les mesures nécessaires. Et voilà. Aviez-vous compris tout ça en écoutant cette histoire de Baba Yaga? Ça vaut une séance de psychothérapie, non? Il n'y a plus qu'à. Mais je ne sais toujours pas d'où sortent l'instinct et la psyché féminine. Génération spontanée, fruit de l'expérience, mémoire cellulaire.
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Un coup pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux ou les cheveux. Finir un sourire pincé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite. Maudite clochette. On peut dire que madame sait faire marcher une maison au doigt, à l'œil, à la baguette. Ici maintenant, pour un oui, pour un non, à tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors surtout, il faut se presser, ne pas traîner ni rêvasser, ne pas penser, ne pas penser. Ding ding, viens ici.
ici, va là-bas, ding ding, fais ceci, fais cela, ding ding, préparez-nous le repas. Ding ding, servez le thé au salon, ding ding, il nous faut du charbon, ding ding, faites les cuivres à fond. Ding ding, de la cave au grenier, du haut en bas, de l'escalier, des chambres aux cuisines, ding ding ding. Ding ding ding, maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, mon corps et ma tête, jamais fatiguée, et rien ne m'arrête, maudite clochette. Madame s'arrange bien souvent pour sucrer mon jour de congé, oublie de me le redonner. Quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie, avant, après, on ne sait jamais. Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne, mais c'est la bonne qu'on soupçonne. Comme elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes, qu'elle veut savoir d'où est le reste. Cette garce surveille mes lectures, épluche mon maigre courrier, fouille ma chambre et mon passé. Mais je ne dis rien, je serre les dents, la m'humilier, je ne suis personne qu'une domestique que l'on sonne. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, pauvre marionnette, tellement dévouée, patiente et honnête. Maudite clochette! Mais je sais bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre, ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orage, et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie. Que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait, et plus vite que ça, s'il vous plaît! Ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame, saute dans ton lit, si vulnérable à ma folie. Tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture, à coups de ciseaux de couture. Et je vois dans ton regard perdu qu'il n'y a que ça que tu comprennes, ton sang qui coule sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner?
Ça va, on vient, on arrive.
Maudite clochette.
Une autre histoire ? Pour en finir avec Clarissa et cette émission, je vais vous raconter une autre histoire tirée de son livre, L'ours au croissant de lune. Il était une fois une jeune femme nommée Akiko. Elle vivait dans une forêt. Son mari était parti à la guerre pendant des années. Quand il est enfin libéré, il rentre chez lui. À l'annonce de son retour, Akiko est folle de joie. Elle court au marché acheter de quoi préparer un festin. 3 sortes de poissons, 3 sortes d'algues, de grosses crevettes, des monceaux de riz blanc. Mais son mari est d'une humeur de chien. Il refuse d'entrer dans la maison et dort dans la forêt. Il y passe ses jours et ses nuits. Elle porte donc le repas dans la forêt. À sa vue, le mari se lève d'un bond et donne un grand coup de pied dans le plateau, renversant ainsi toute cette bonne nourriture. « Laisse-moi seule !» rugit-il en tournant le dos. Le lendemain, elle revient avec d'autres plats, encore plus raffinés, qui subissent le même sort. Et ainsi, pendant plusieurs jours. Désespérée, Akiko se décide à aller consulter une guérisseuse qui habitait dans une caverne non loin du village. La guerre a meurtri mon mari. Il est perpétuellement furieux. Pouvez-vous me donner un remède qui le rendra aimant et attentif, comme avant ? C'est possible. Mais j'ai besoin d'un ingrédient particulier. Un poil de l'ours au croissant de lune. Il habite au-delà de la montagne. Trouve-le et rapporte-moi ce poil qui se situe sur sa gorge. Il y a une tache blanche dans son poil noir. Je pourrai alors te donner ce que tu veux. » Akiko remercie la vieille femme et se prépare au voyage. Elle emmène un grand sac de nourriture et commence à escalader la montagne. Elle chante une prière pour la montagne, pour qu'elle lui permette de l'escalader. Puis elle arrive sur un plateau couvert d'arbres, dont les branches serrées les unes contre les autres pendent jusqu'à terre. Akiko prie les arbres de la laisser passer, et les branches s'écartent sur son passage. Elle continue à grimper, jusqu'à atteindre la neige et le froid qui lui gèlent les pieds. Mais toujours priant et chantonnant, elle continue à grimper. Elle arrive ainsi au pied d'une caverne. C'était le soir. Elle pénètre dans la caverne et se couche sur un lit de feuilles sèches. Au matin, elle sort de la caverne pour aller à la recherche de l'ours, au croissant de lune. Elle n'a pas fait 10 pas qu'il se dresse devant elle et, en rugissant, il rejoint sa caverne. Tremblante, Akiko remplit un bol de la nourriture qu'elle avait amenée et la dépose devant la caverne. Puis elle va se mettre à l'abri un peu plus loin. Alléchée par l'odeur de la nourriture, l'ours sort de sa tanière. Il s'approche du bol, hume l'air alentour et il avale le contenu du bol en une seule bouchée. Puis retourne dans sa tanière. Le lendemain soir, Akiko dépose un autre bol de nourriture devant la tanière. Et puis il s'éloigne un peu. L'ours, en humant l'air, s'approche doucement du bol, tourne autour, puis avale d'une seule bouchée son contenu et retourne dans sa tanière. Et ainsi, pendant plusieurs jours, et à chaque fois, Akiko reste un petit peu plus près de la tanière jusqu'à être juste à l'entrée. L'ours voit le bol, mais il voit aussi Akiko, tout près. Un formidable rugissement fait trembler Akiko, mais elle ne bouge pas. L'ours se dresse sur ses pattes de derrière et avance ses griffes vers la tête de la jeune femme. Mais elle ne recule pas. Malgré sa frayeur, elle lui dit « Je t'en prie, cela fait plusieurs jours que je te nourris. Pourrais-je avoir l'un de tes poils du croissant de lune sur ta gorge ? J'en ai besoin pour un remède dont mon mari a besoin. » L'ours arrête de gronder, se remet sur ses 4 pattes et lui dit « Il est vrai que tu as été bonne pour moi. Eh bien, tu peux prendre l'un des poils de ma gorge. » L'ours lève la tête, découvrant le croissant de lune sur sa gorge, et en tremblant, Akiko tire un poil d'un coup sec puis s'écarte rapidement. « Merci, oh, merci, ours au croissant de lune !» Et elle reprend le chemin du retour. Elle arrive chez la guérisseuse. Ses vêtements sont en lambeaux, les cheveux en bataille, couvertes de poussière. « Regardez, regardez, je l'ai trouvé, l'ours au croissant de lune, et j'ai un poil de sa gorge !»« Bien, » dit la guérisseuse en souriant. Elle prend le poil dans sa main, le regarde à la lumière. Oui, c'est bien un poil de l'ours au croissant de lune. Et elle jette le poil dans le feu. Akiko pousse un cri. Qu'avez-vous fait? Calme-toi, tout va bien. Tu te rappelles chaque pas que tu as fait pour escalader la montagne? Tu te rappelles ce que tu as fait pour gagner la confiance de l'ours? Tu te rappelles tout ce que tu as vu, entendu? Oui, je me le rappelle parfaitement. Eh bien, maintenant, ma fille, rentre chez toi avec cette compréhension nouvelle et suis la même méthode avec ton mari.
gens sont heureux, font semblant. Pièces montées de travers, pensions alimentaires. Nom de Dieu, sans papier, font la queue pour manger. Ailleurs on fait la tête pour finir son assiette. Quand je vois toute cette soupe qu'on nous montre à la loupe dans le journal du soir, moi Dieu je peux pas y croire. Faut mourir en képi, nom de Dieu, quelle chaleur. Nos petits vieux meurent de peur, oubliés sur un banc par leurs petits enfants. Quand je vois toute cette soupe qu'on nous montre à la loupe dans le journal du soir, moi Dieu je peux pas y croire.
Bien sûr, vous avez droit à l'analyse qu'en fait Clarissa. Ce conte révèle, nous dit Clarissa, un modèle complet pour se comporter avec la rage et en guérir. Affronter sa rage en guérisseuse avec sagesse, la patience étant un bon moyen. Quant à l'ours, dans notre psyché, c'est la capacité de régler sa propre vie, de vivre selon ses cycles. Il paraît que dans le conte, comme dans les rêves, les différents personnages sont les différentes parties du soi. Il est assez maladroit, enfin pour moi, que justement la rage soit le mari et qu'en fait l'histoire ferait penser plutôt que, encore une fois, la femme se met en quatre pour calmer et amadouer son furieux de mari. Bah, chacune son interprétation.
J'attends le dernier saut, le soubresaut de ma conscience. J'attends l'ultime regard, souvent un gare, une évidence. J'attends le soulagement, le corps épuisé qui balance. J'attends le réveil blanc, lové dans des draps de coton. J'attends. J'attends.
Notre émission se termine. Nous allons abandonner Clarissa. Peut-être momentanément. Après quelques mois de lecture sur les femmes, je comprendrai peut-être mieux ce qu'elle tente de nous dire. Et si vous, vous avez des idées plus claires que moi là-dessus, n'hésitez pas à venir nous les dire. Il suffit de m'envoyer un courriel à la cour des comptes, un seul mot, free.fr. Et on arrange le coup. L'illustration musicale est fort à propos féminine, avec Mélisse Mel dans Aux armes, Juliette dans Maudite clochette, Roxane Krief dans Nom de Dieu et Sarah Psaudi dans J'attends. Le mois prochain, je ferai appel à Françoise Héritier, anthropologue, pour nous éclairer sur l'origine de l'inégalité de statut entre les hommes et les femmes. En attendant, deux petites blagues. Pas très sérieuses, je vous l'accorde. Définition de femme facile. Femme ayant les mêmes besoins sexuels qu'un homme. Définition du GPS. Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin. Bonsoir.